Place publique.
On revient sur le coup de filet antiterroriste mené conjointement hier en Suisse et en France. Les polices neuchâteloises et vaudoises ont mené des perquisitions dans leurs cantons respectifs. Est-ce pour autant que la menace a franchi un nouveau palier en Suisse romande ? On en parle dans un instant avec l'expert en sécurité Alexandre Vautravers. Le paysage universitaire doit-il davantage miser sur les mathématiques, l'informatique, les sciences naturelles et la technique, quitte à enlever des ressources aux sciences humaines et sociales ? Le recteur de l'université de Neuchâtel, Kilian Stoffel, répondra aux propositions du directeur roman d'Avenir Suisse, Tibère Adler. Enfin, le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale augmente toujours et encore, un phénomène avant tout urbain. Une étude parue hier met en lumière les catégories de populations vulnérables dans 14 villes de Suisse. On en parle en dernière partie d'émission.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. L'importante opération antiterroriste menée hier en France et dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud interroge sur le niveau d'alerte terroriste dans notre région. Les 10 suspects arrêtés en France et en Suisse tenaient des propos jugés inquiétants sur la messagerie cryptée Telegram prisée par les djihadistes. Une source proche de l'enquête précise que les conversations mentionnent des actions violentes ou contours mal définis, mais le ministère public de la Confédération assure pour sa part qu'aucun indice ne laisse penser à une action concrète planifiée en Suisse. Malgré tout, un ressortissant hiverdenois et sa compagne colombienne de 23 ans font partie des personnes arrêtées. Alors la menace se précise-t-elle en Suisse ? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Alexandre Vautravers. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en sécurité et collaborateur scientifique au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Alors pour comprendre, le communiqué du ministère public de la Confédération souligne que les polices suisses et françaises on travaillait main dans la main avec un groupe conjoint d'enquête spécialement mis en place à cet effet. Est-ce qu'il s'agit d'un niveau exceptionnel de collaboration justifié par la menace terroriste sans précédent ou est-ce que c'est un dispositif classique d'entraide lors d'enquêtes criminelles transfrontalières ?
Alors évidemment, c'est une opération qui est extrêmement visible. C'est comme certaines de ces photos où l'on voit de grandes saisies de stupéfiants. Si vous voulez, c'est la partie du coup de filet et ça masque malheureusement tout le travail qui a lieu depuis des années. En fait, qui a commencé avec une collaboration au niveau de la protection des frontières, de la surveillance des frontières, qui est devenue et qui s'est largement agrandie avec toutes les mesures que l'on connaît dans l'espace Schengen. Donc on a amélioré la collaboration entre les services de garde frontières, de police des frontières, ensuite les activités de la police, avec par exemple à Genève la création d'une brigade opérationnelle mixte sous l'impulsion de Pierre Maudet. Et puis vous avez, plus récemment encore une fois grâce à Schengen, vous avez ces partages de fichiers, de bases de données informatiques, en fait, qui permettent, avec des agences, avec une entraide judiciaire qui est quand même très étroite, avec les accords de Paris, en fait, tout ceci permet une action dans la profondeur et dans plusieurs pays.
Mais en lien avec la menace terroriste d'inspiration djihadiste, on peut dire que c'est la première fois que les deux pays travaillent conjointement dans un dispositif de telle ampleur.
Encore une fois, c'est une partie visible, mais l'entraide judiciaire est très importante. L'entraide et la transmission d'informations depuis 2015, depuis les attentats du Bataclan, entre la France et la Suisse se sont sensiblement améliorées. On peut dire que les lignes de communication se sont raccourcies. Les gens se connaissent mieux, travaillent mieux ensemble. Et puis, je pense aussi, les autorités suisses ont pris le phénomène de radicalisation de voyageurs du djihad, d'attentats terroristes beaucoup plus au sérieux, avec une nouvelle loi sur le renseignement, des nouvelles capacités et puis aussi des nouveaux postes.
Ce qui n'est pas rien, hein. On se souvient qu'après les attentats du Bataclan, il y a eu comme des couacs entre par exemple la Belgique et la France pour nouer l'enquête. Là, on a l'impression que tout se passe au mieux.
Alors il y a eu des couacs entre la France et la Suisse, même, on pourrait dire, quelques heures ou quelques jours après les attentats du Bataclan. Et il ne s'agit pas, si j'ose dire, de baisser les bras, il s'agit vraiment d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. Et je pense qu'on peut comprendre aussi, les services français ont été mis sous une pression absolument infernale à la suite de ces tueries, de ces massacres, avec plus d'une centaine de personnes qui ont été tuées à Paris. en 2015. Et donc, la collaboration et l'entraide judiciaire a peut-être passé au second plan. Et c'est justement ce qui permet de réaliser des coups de filet comme celui auquel on a assisté il y a quelques heures.
On a coutume d'entendre nos autorités évoquer une menace terroriste latente en Suisse. Aujourd'hui, à la lumière de ce qui s'est produit et ce dont on parle, est-ce que cette menace se précise ?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle une menace précise. Moi, je considère que la menace, elle est suffisamment précise puisqu'on a des statements de différents leaders de l'État islamique contre la Suisse, contre les valeurs occidentales, contre des institutions, des organisations internationales, des représentations de certains États qui, bien sûr, ont pied à terre, qui ont leurs locaux, leurs infrastructures à Genève ou à Berne ou ailleurs, voire même contre des multinationales. Donc je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'on puisse véritablement parler d'une menace précise, si ce n'est effectivement les plans de l'exécution d'une attaque terroriste quelques heures ou quelques jours avant que celle-ci n'ait lieu. Ce qu'on peut dire sur un plan vraiment stratégique, si on fait un pas en arrière, c'est que bien sûr l'État islamique est sous la pression des armes, en fait sous les bombes de Moscou en Syrie, et depuis maintenant 2 ans, l'État islamique donne plutôt le conseil de ne pas venir combattre en Syrie pour créer ce califat ou créer cet État islamique qui aujourd'hui territorialement se réduit à une peau de chagrin. Et aujourd'hui, l'État islamique est plutôt en train d'encourager les gens de préparer des attentats, préparer des actions à portée de chez eux, donc au coin de la rue.
Difficile toutefois d'évaluer le nombre de personnes suivies en Suisse romande hein, qui sont des candidats au djihad ou qui représentent, en lien avec la radicalisation, une menace terroriste. On se souvient d'un article du Tagesanzeiger au mois de juin qui affirmait qu'il y avait 7 extrémistes identifiés dans l'arc jurassien. Un chiffre non vérifié, non confirmé par les polices concernées. Mais d'autres sources informées évoquent des chiffres plus importants, 3 fois plus importants même. Que faut-il penser par rapport à l'ampleur du phénomène ? Les autorités sont évidemment très peu bavardes à ce niveau-là.
Bon, elles sont peut-être pas bavardes, mais vous avez toute une série de rapports du service de renseignement de la Confédération et puis de cette Task Force Tetra, des rapports annuels en fait qui donnent des chiffres. Donc ces chiffres ne sont pas mystérieux. On sait qu'il y a entre 70 et 80 personnes qui ont voyagé, donc qui ont quitté la Suisse pour se rendre dans l'État islamique, entre guillemets, pour se rendre dans le califat et très certainement pour y combattre ou en tout cas servir l'État islamique. On sait qu'en termes de radicalisation, on est en train de parler grosso modo de 300 à 500 personnes. Donc ce n'est pas quelque chose qui est un mystère. Et les statistiques ou ce nombre de personnes qui sont préoccupantes, eh bien ces taux, ce pourcentage de personnes en voie de radicalisation, il est à peu près le même en Suisse qu'en France ou qu'en Belgique.
Avant de retrouver Léonard Reichen pour un rappel des principaux titres, on vous retrouve après Alexandre Vautravert. Un mot quand même sur ce que révèle aussi cette opération antiterroriste. Une fois de plus, la messagerie cryptée Telegram fait parler d'elle, où s'échangent quotidiennement des millions de messages. Est-ce que les polices, dont les nôtres, ont les moyens d'en prendre la mesure ?
Bon, heureusement, le peuple suisse a approuvé à une très très large majorité la nouvelle loi sur le renseignement. Il a fallu attendre pratiquement une année pour que cette loi entre véritablement en vigueur. Il faut former et recruter le personnel adéquat. Enfin, heureusement, si j'ose dire, on n'est pas nu dans cette situation. Malheureusement, cette loi sur le renseignement, on le savait déjà pendant la campagne, elle ne s'applique que dans des cas extrêmement précis. C'est un petit peu comme si on se balade dans une pièce très sombre avec vraiment une petite lampe de poche au lieu d'éclairer avec un néon. Donc on n'est pas du tout au niveau des capacités techniques, technologiques et des capacités des services de certains de nos États voisins.
Alexandre Vautravert, ce niveau de coopération internationale dont on a parlé est rendu plus nécessaire que jamais. Et c'est la raison pour laquelle elle fait l'objet, cette coopération, d'un programme d'études dédié, un master en sécurité globale que vous lancez à l'Université de Genève.
Absolument, parce que au-delà de ce coup de filet très visible, très marquant, qui va marquer les esprits, mais qui n'est pas très dissuasif, et puis ça ne résout pas le problème de fond de la radicalisation, eh bien il faut des études, il faut des gens qui soient formés, il faut des gens qui coopèrent, il faut des gens qui viennent de la police, il faut des gens qui viennent d'autres services, qui puissent apprendre à collaborer, faire une synthèse ou faire un lien entre ce qui se passe peut-être très très loin sur la planète avec les besoins du service, avec des missions et avec un cadre réglementaire qui est imposé en Suisse. On le sait, notre système sécuritaire suisse est empreint de fédéralisme, donc c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, on nous a demandé que ce soit des entreprises, donc du privé, que ce soit également des forces de police, eh bien de renforcer le niveau de coopération et le niveau de connaissance, de capacité à collaborer entre les différents acteurs de la sécurité. Et c'est justement ce nouveau programme de CAS, MAS. C'est une formation continue, donc on peut travailler à plein temps et suivre ses études. Ça se décline en quelques semaines, en 9 semaines au total, et cela permet en fait d'accéder à ce réseau national de sécurité.
Un grand merci Alexandre Vautravert, donc expert en sécurité et professeur de relations internationales à l'Université de Genève, d'être venu dans Place Publique. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
Place Publique.
Journée importante pour l'université de Neuchâtel cette fois, c'était ce mercredi ce matin, qui a présenté l'université, ses filières à plus de 1000 lycéens et étudiants en bachelor, venus notamment de l'arc jurassien mais aussi de toute la Suisse. L'occasion dans Place Publique d'ouvrir le débat sur l'utilité des sciences humaines et sociales compte tenu des attentes du marché du travail. Alors pour en parler, on a le plaisir d'accueillir le recteur de l'université de Neuchâtel, Kilian Stoffel. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, je vous propose un retour sur cette journée d'information. Au programme, participation à des cours, visites guidées, échanges avec des étudiants et professeurs. Alors notre collègue Jean-Paul Picci était sur place, il a rencontré Guillaume, 23 ans, qui habite Bienne. Guillaume nous dit la raison de sa venue ce matin.
Je suis venu chercher des informations surtout sur les débouchés, parce que les matières, ils nous les présentent bien sur le site et puis on a plein d'informations, mais ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir sur quoi ça va déboucher les formations que je peux faire ici. Comme la philosophie, par exemple, ça m'intéresse beaucoup, mais à mon avis, à part si on écrit des bouquins, on a de la peine à gagner sa vie avec. Du coup, je voudrais savoir qu'est-ce que ça peut m'apporter plus tard et avec quoi je devrais combiner comme matière pour en faire un métier, quoi. Je prendrai pas une branche qui me mènera vers un métier que je suis pas prêt de faire.
Kilian Stoffel, un mot-clé, des débouchés. On imagine que la question revient souvent chez les futurs étudiants à l'heure de faire leur choix.
Oui, je crois que c'est une préoccupation de nos étudiants ces jours-là.
Qui grandit de plus en plus, est-ce que ça devient finalement l'objectif essentiel pour tous ceux qui mettent le pied dans votre institution, trouver un job à la sortie?
C'est un objectif important, c'est pas le seul, je pense. Il y a différentes motivations pourquoi on commence des études, mais c'est un des éléments clés dans la préoccupation des étudiants, ça c'est sûr. Oui.
Alors une journée comme celle-ci, elle vous permet d'assurer votre ancrage dans la région, mais aussi dans le pays, dans une offre de formation très concurrentielle. Quels arguments clés vous avez envie de mettre en avant pour vanter les mérites de l'Université de Neuchâtel?
Alors, je pense on a essayé de justement rendre toutes les formations pertinentes pour les problématiques de la société. Est-ce que l'étudiant futur de Neuchâtel a posé comme question, c'est assez pertinent. Il a posé la question, comment est-ce que je peux combiner la philosophie avec d'autres domaines pour avoir un métier à ma sortie? Et c'est exactement ça ce qu'on essaie de faire. On essaie d'ouvrir des formations pluridisciplinaires, interdisciplinaires, pour justement permettre aux étudiants de compléter leur formation, soit par leurs intérêts, par un domaine, soit pour des motivations de débouchés.
L'université de Neuchâtel, on le rappelle, est tournée majoritairement vers les sciences humaines et sociales, avec 80% de ses effectifs. Pour le laboratoire d'idées Avenir Suisse, le système universitaire suisse doit revoir un peu ses priorités et davantage miser sur les MINT, soit les branches comme les mathématiques, l'informatique, les sciences naturelles ou la technique. Alors, est-ce à dire que l'offre en sciences humaines et sociales est trop abondante, y compris en terre neuchâteloise? C'est la question posée au directeur roman d'Avenir Suisse, Thibert Adler. On l'écoute et vous réagissez après.
C'est un débat délicat parce que l'idée n'est pas du tout de contester la valeur sociale et sociétale des sciences humaines et sociales. On voit par exemple que les diplômés en sciences sociales trouvent tout aussi bien du travail, en tout cas pour l'instant en Suisse, que les diplômés d'autres filières. Simplement, nous faisons l'analyse que les entreprises suisses importent, pardonnez-moi l'expression, beaucoup de diplômés supérieures, donc des universités dans les domaines mines, donc techniques et mathématiques, beaucoup plus que nous ne pouvons en former, et que cette proportion d'immigration est beaucoup plus basse dans les sciences sociales. C'est pourquoi nous proposons de soutenir quand même l'effort pour former plus de personnes dans les filières mines.
Qui se ferait quand même, puisque le nombre d'étudiants n'est pas extensible, qui se ferait quand même au détriment des diplômés en sciences sociales?
Alors, pas au détriment, nous sommes des fervents défenseurs du libre choix des études, donc chaque personne en Suisse, chaque étudiant qui est passionné par une discipline doit pouvoir la suivre, sciences sociales, en technique, en médecine ou en droit, mais il faut effectivement poser des principes pour une réallocation des ressources au sein du système universitaire.
Revenons sur ces diplômés en sciences sociales et humaines qui trouvent facilement de l'emploi apparemment, c'est dire que leurs qualités, leurs compétences sont plébiscitées par le marché du travail. Est-ce qu'en mettant en plus l'accent sur les mines, on ne risque pas de priver le marché d'une main-d'œuvre précieuse?
Notre position n'est pas un plaidoyer contre les sciences sociales et humaines. Nous l'avons fait surtout en relation avec l'immigration. Aujourd'hui, la Suisse forme trop peu dans les MINT et peut-être un peu trop dans les sciences sociales. Pour l'instant, le marché du travail était capable de l'absorber. Cela dit, d'un point de vue économique et statistique, on voit aussi que la rentabilité, on déteste le terme, de la formation pour l'étudiant est moindre aussi dans les sciences sociales que dans les disciplines techniques. C'est-à-dire que l'effort investi dans les études, la longueur des études, la renonciation un gain pendant les études n'est pas aussi bien compensé dans les sciences sociales ultérieurement par des salaires dans la vie active que dans les sciences techniques. Mais il n'y a pas de plaidoyer contre les sciences sociales, et vous avez parfaitement raison, c'est que dans un monde numérique, il ne suffit pas d'avoir des techniciens, donc il en manque en Suisse puisqu'on en importe de l'étranger, que nous poussons l'immigration de diplômés étrangers dans les sciences techniques, mais il faut de plus en plus dans un monde numérique des compétences humaines qui vont se distinguer des machines, des logiciels. Et ça, bien entendu, on les acquiert dans toutes les filières, y compris les sciences sociales et humaines. Et donc, absolument important de maintenir ces filières à l'avenir.
Alors, l'université de Neuchâtel, dont 80% des effectifs sont dédiés aux sciences humaines et sociales, s'est donné pour vision stratégique de préparer la société 4.0 dans toutes ses implications sociétales. Est-ce qu'elle fait bonne route ?
Écoutez, c'est une des universités dans un paysage universitaire plus large en Suisse. Nous considérons la chose de manière nationale, et notre réflexion sur la réallocation des ressources pour mieux soutenir les filières mines, c'est-à-dire pouvoir augmenter leur capacité d'accueil des étudiants, est nationale. Après, à chaque université de se positionner, Neuchâtel choisit de le faire sur les sciences sociales, c'est toujours évidemment un créneau tout à fait important. Il faudrait plutôt surtout que ça soit coordonné avec d'autres universités. Le danger, c'est que toutes fassent les mêmes types de choix et qu'au final, on n'atteigne pas les objectifs globaux souhaités.
Parce que vous demandez quand même que le paysage académique soit restructuré pour qu'il n'y ait pas de doublons précisément, c'est-à-dire que des universités de petite taille devraient se fondre dans des entités plus grandes?
Pas nécessairement se fondre, mais peut-être se spécialiser. C'est le thème de notre prochaine étude Avenir Suisse qui sortira encore avant Noël de cette année. Il faut affirmer une compétence forte, en tout cas dans un domaine, et pas nécessairement se fondre dans une entité plus grande. Mais il faut des centres de compétences pour un canton relativement petit comme Neuchâtel. Soutenir son université est un effort important, donc il faut faire un choix d'allocation de ressources et afficher surtout une spécialité, une compétence particulière. Pourquoi pas dans les sciences sociales et humaines? Absolument, surtout si d'autres développent plus les mines.
Kilian Stoffel pour réagir avec nous au propos de Tibert Adler qu'on vient d'entendre. Kilian Stoffel, recteur de l'Université de Neuchâtel, on l'a entendu, réallouer les ressources pour les mettre un peu plus dans le domaine des MINT, donc des sciences comme les maths, l'informatique, etc., plutôt que les sciences humaines. Est-ce que c'est quelque chose que vous approuvez? Est-ce que c'est une bonne stratégie?
Moi, je pense qu'il faut déjà se mettre d'accord ce que ça veut dire réallouer. Ça veut dire que les formations dans les mines sont typiquement beaucoup plus chères que les formations en sciences humaines et sociales. C'est essentiellement l'infrastructure. Alors, je ne sais pas si M. Adler fait allusion au nombre de personnels qui devraient enseigner ou si c'est plutôt l'infrastructure qu'il fallait augmenter. Mais là, il faut préciser, je crois, seulement réallouer, ça fait peu de sens pour moi comme ça. Il faut avoir une stratégie derrière cette réallocation.
Mais par rapport au constat, est-ce vrai? Est-ce que vous constatez que la Suisse ne forme pas assez de techniciens MINT pour les besoins du marché?
Alors, par rapport à la demande de l'industrie, il n'y a pas assez d'étudiants ou de diplômés dans ces disciplines-là. Maintenant, c'est pas dit si on offre plus de places d'études que le nombre d'étudiants. Il va y avoir plus d'étudiants qui vont être formés. Les facultés de sciences, traditionnellement, ont plutôt souffert d'un sous-effectif. Alors peut-être, je ne connais pas les chiffres pour toutes les universités, peut-être ça change un petit peu, mais il y a certainement encore des capacités. Alors je suis très heureux s'il y a des étudiants qui veulent faire des études en sciences chez nous.
Surtout que vous avez fait des études de sciences, hein, vous êtes docteur en informatique, expert en sciences économiques. Ça doit vous parler quand même, ce discours.
Disons, moi je comprends tout à fait la préoccupation vue depuis les entreprises, mais l'université a une mission quand même de former des étudiants pour la société, pas seulement pour l'économie. L'économie et les entreprises, c'est une partie de ce système, mais il y a une vision beaucoup plus large. Et là, nous, on mise essentiellement sur l'interdisciplinarité des compétences multiples. Et c'est pour ça que c'est important que nous, on a un bout de sciences humaines et naturelles, sciences exactes et naturelles, mais aussi les autres parties. Alors pour nous, c'est pas un « ou », et pas une question exclusive l'un ou l'autre, mais les deux ensemble.
Alors, on a entendu le discours d'Avenir Suisse, institut de recherche d'obédience libérale, plutôt à droite, proche des milieux économiques, dans des articles récents. Il y en a encore un autre Avenir, on l'a entendu. Est-ce que cette vision, est-ce qu'elle correspond aussi à une pression que vous mettent les autorités politiques, ceux qui vous donnent l'argent? Apparemment, ça ne va pas être simple pour négocier le prochain budget l'année prochaine.
Alors, les questions de budget, c'est une autre chose. Alors, moi, je suis assez profondément convaincu que la liberté académique n'est pas actuellement mise en question, en tout cas pas par les milieux politiques. Il y a plus de pression côté économique, ça c'est clair, parce que là, il y a d'autres intérêts. Mais il y a un certain danger par rapport à des petites disciplines, parce qu'ils ne sont pas nécessairement rentables dans le terme strict économiquement.
Parce que l'université de Neuchâtel, de taille modeste par rapport à d'autres, principalement, on l'a dit encore, axé sur les sciences humaines et sociales, n'est pas forcément en pôle position pour recevoir vraiment tous les subsides de la Confédération. Ça a été dit pendant le Dies Academicus, votre institution est sous pression pour la raison même qu'elle fait des choix et qu'elle a une taille plutôt réduite.
Alors, mais ça c'est lié au fait que la Confédération essaie de subventionner en fonction des coûts réels et on est tout à fait d'accord que d'une formation dans les mines, si on veut le résumer comme ça, est plus chère que dans d'autres disciplines. Alors c'est pour ça, ça a des conséquences pour une institution comme la nôtre, mais on a les possibilités de s'adapter. Alors pour nous, c'est vraiment l'exclusivité qui poserait un problème.
L'université de Neuchâtel peut s'enorgueillir hein, d'être reconnue internationalement dans des classements sur le plan des universités de petite taille, comme étant vraiment une des meilleures. Mais ça coûte cher, on le sait, et Tibère Adler le soulevait aussi, elle doit probablement se spécialiser pour si elle veut durer. Est-ce que dans ce cadre-là, des choix doivent encore être faits ou vous avez l'impression d'avoir déjà suffisamment épuré votre offre?
Alors je pense, nous, on a fait le choix justement de pas se spécialiser plus que ça, parce que moi je pense, et ça vraiment fait partie de la stratégie de l'université, que le futur c'est dans l'interdisciplinaire. Et d'ailleurs, Avenir Suisse a aussi mentionné que des compétences linguistiques, communication et ainsi de suite sont des compétences importantes dans des domaines techniques. Et notre pari, c'est de combiner ces compétences pour créer des formations qui combinent justement ces choses-là. Alors là, il y a pas vraiment ce problème-là dans ce sens-là.
Eh bien, longue vie à l'Université de Neuchâtel. Merci Kylian Stoffel d'être venu dans Place Publique, on le rappelle. Vous êtes le recteur de cette université. Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Place Publique.
Et on parle d'aide sociale, l'aide sociale qui est plus nécessaire que jamais, surtout dans les villes. Une étude publiée hier montre que le nombre de dossiers a bondi de 5,2% en 2016 par rapport à l'année précédente. Le rapport détaille l'évolution de différents indicateurs de l'aide sociale, comme l'âge des personnes concernées, leur nationalité, leur situation familiale, mais aussi le contexte économique urbain dans lequel évoluent ces bénéficiaires. Et parmi les 14 villes étudiées, la ville de Bienne, qui affiche le taux d'aide sociale le plus élevé, même si la hausse s'élargit légèrement tassé. Alors on va parler de cette étude, de ces enseignements avec vous Martine Courte, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes secrétaire générale de l'ARCIAS, l'association romande et tessinoise des institutions d'action sociale. Alors l'étude menée par la Haute École spécialisée bernoise et l'initiative des villes pour la politique sociale montre que le phénomène est avant tout urbain, même si certaines grandes villes alémaniques comme Zurich et Bâle s'en sortent mieux que d'autres villes plus petites ou d'autres agglomérations. Ça ne dépend pas forcément de la taille de la ville.
En fait, oui, ça dépend partiellement de la taille de la ville si on croise une série d'indicateurs. Ce que l'évolution montre, c'est qu'en fait, Au départ, c'était un phénomène largement dans les grandes villes, les problématiques de précarité, de pauvreté, et il s'étend parce qu'en fait, il n'y a plus forcément de loyers abordables pour des personnes qui sont plus précarisées dans les centres. Et en fait, ça se déplace. Et donc, ça s'est déplacé d'abord dans l'agglomération. Et on va voir tranquillement, si on ne prend pas les mesures nécessaires, on va voir gentiment que ça va s'exporter encore de plus en plus loin.
Ça veut dire que ça peut s'observer dans un canton comme celui de Neuchâtel, par exemple ?
Alors, je pense que ça s'observe très clairement dans le canton de Neuchâtel, oui.
Et de quelle manière ?
Je pense qu'il y a eu un indicateur qui était intéressant, c'était la fin de l'aide au logement de la Confédération, de l'aide à la pierre, et l'augmentation des loyers qui a suivi. Alors, les communes et le canton ont absorbé une partie pendant un temps, et on a vu des réactions extrêmement différentes, par exemple à la Chaux-de-Fonds, où les gens ont quitté les logements et en ont trouvé d'autres, peut-être moins chers, en tout cas pas plus chers, ont pu se reloger assez facilement. Et puis, la ville de Neuchâtel, les personnes sont restées le plus longtemps possible jusqu'à expulsion avec des arriérés de loyer, parce qu'elles n'ont pas retrouvé à se loger à ces prix-là. Et donc, on a eu probablement aussi une part d'exportation de précarité du littoral sur les montagnes neuchâteloises, par le biais du loyer.
L'aide sociale concerne en priorité, c'est un des enseignements de cette étude, en priorité des personnes seules et des familles monoparentales, avec ce chiffre qui fait froid dans le dos. Plus de 80% des ménages composés d'une mère de 25 ans, de moins de 25 ans, élevant un enfant, dépendent de l'aide sociale. 80% de ces ménages avec une jeune mère et un enfant dépendent de l'aide sociale.
Oui, en fait, c'est en même temps assez logique. Souvent, ce sont des jeunes femmes qui n'ont pas de formation ou qui n'ont pas terminé leur formation. Souvent, on trouve peu d'aide ou un réseau familial qui n'est pas forcément suffisant ou extrêmement étendu. Et puis, souvent, dans des débuts de formation des débuts de formation dans des métiers plutôt précaires. Donc, avec de toute façon des revenus et des conditions de travail qui sont difficilement conciliables avec un enfant à assumer seul.
Avec le risque d'exposer l'enfant à la pauvreté directement.
Oui, mais en fait, vous savez, en Suisse, un tiers des bénéficiaires de l'aide sociale à peu près sont des enfants. Donc, on est dans des taux qui sont extrêmement importants pour un pays riche. Et ça a des conséquences, clairement, et des conséquences dont on ferait bien de se préoccuper.
Alors, voilà un chiffre aussi très impressionnant. Un tiers des bénéficiaires de l'aide sociale sont des enfants. Quand on a dit ça, Martine Courte, on doit tirer quels enseignements ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire d'abord que probablement les enfants ne les voient pas parce que l'aide sociale, c'est les adultes. Et en fait, c'est un dossier, c'est une personne et derrière, il y a une famille. Et donc, en fait, on voit assez peu les enfants. Je pense aussi qu'on n'a pas envie de voir, parce que de voir que 30% des bénéficiaires de l'aide sociale sont des enfants, en moyenne à peu près, eh ben, ça nécessite de prendre des mesures et qu'on n'a pas envie de prendre des mesures, je pense.
Avec de telles études qui mettent en lumière justement ces vulnérabilités, est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas tous les outils en main pour prendre ces fameuses mesures ? Rien ne s'est fait à ce niveau-là ?
Alors, je trouve très intéressant que le rapport à l'époque de la commission Enfance et Jeunesse dans les années 2007 ou 2008 mettait en exergue une série d'éléments et une série de mesures possibles. Et quand on regarde 10 ans après, je pense qu'il y a 2 ou 3 mesures qui ont été appliquées en Suisse, c'était au niveau national. Donc, par rapport à l'enfance et à la jeunesse et la pauvreté des enfants et des jeunes.
Directement lié aussi à la famille. Là, Lausanne a quand même réussi son pari de faire baisser considérablement le nombre de bénéficiaires, hein, en soutenant les familles avec des prestations complémentaires, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une piste là pour écarter quand même les familles, les ménages de ce dernier filet, de ce dernier rempart à la pauvreté ?
Alors, ce que ça montre en tout cas, c'est qu'une politique volontariste comme celle qui est encore menée dans le canton de Vaud depuis plus de 10 ans, porte des fruits, clairement. Et non seulement elle porte des fruits statistiques, mais elle porte des fruits humains. Et je pense que c'est aussi extrêmement important de voir qu'effectivement, on peut aider à une série de personnes à sortir de la pauvreté. Et je pense notamment tout ce que le canton de Vaud a mis en place aussi sur la formation des jeunes qui sont à l'aide sociale, et de les transférer dans les bourses, de les pousser le plus possible pour des apprentissages, etc., pour qu'ils aient une garantie, entre guillemets, si tant est qu'on ait des garanties aujourd'hui, mais une chance d'autonomie. Et ça, je pense que ce sont des réflexions d'avenir et des politiques volontaires et volontaristes qui montrent leurs résultats.
Il faut essayer de déplacer le soutien ailleurs qu'à l'aide sociale. On sait qu'il y a de gros enjeux, un gros débat autour de l'aide sociale pour en restreindre l'accès, pour inciter les gens qui la touchent à en sortir. C'est pas du tout la panacée.
Le problème de l'aide sociale, c'est qu'elle est conçue à la base et légalement comme une aide de courte durée et ponctuelle pour des, entre guillemets, accidents de la vie. Or, avec le temps, avec les restrictions qui ont été imposées au niveau fédéral dans le cadre des assurances sociales, la LACI, la loi sur l'assurance chômage, s'est mise à licencier puisque la quatrième révision a envoyé dans les décors un nombre incroyable de personnes qui se sont retrouvées aussi à l'aide sociale. L'AI est de plus en plus restrictif. Donc, on trouve de plus en plus de gens à l'aide sociale qui sont malades, non reconnus AI, donc inaptes au placement, donc qui n'ont pas droit au chômage. Et en fait, on n'a toujours pas d'assurance perte de gain maladie en Suisse. Donc, si vous tombez malade, vous pouvez vous retrouver avec rien. Et ça, je pense que c'est... Alors après, on peut dire, oui, l'aide sociale, mais heureusement qu'elle est là. Et effectivement, il y a toute une série de politiques en amont qui devraient être revues et réfléchies de manière à ce que l'aide sociale puisse faire son boulot.
Martine Courte, l'indicateur, les indicateurs dont on parle montrent aussi que le nombre d'actifs, donc les personnes qui ont un travail et qui malgré tout ont besoin de l'aide sociale, augmente. Fameux travailleurs pauvres.
Ben oui, parce que les salaires n'ont pas augmenté, alors que dans le même temps, les loyers ont pris l'ascenseur de manière extrêmement indécente dans certains endroits, que l'assurance maladie n'arrête pas d'augmenter et que donc avec des salaires plus bas ou égaux, on doit payer de plus en plus de frais fixes. Forcément, je veux dire, toutes les personnes qui étaient juste en-dessus du niveau de l'aide sociale peuvent très facilement se retrouver dessous.
Donc, des employeurs comptent sur l'aide sociale pour compléter des salaires trop bas ?
Oui, en fait, moi, j'ai coutume de dire que les plus grands pourfendeurs de l'aide sociale, en général, sont ceux qui en bénéficient le plus, à savoir les propriétaires immobiliers, parce que à peu près une moitié des coûts de l'aide sociale sont des coûts de logement. Donc, en fait, quand ça prend l'ascenseur, évidemment, les coûts de l'aide sociale augmentent. Et puis, les employeurs, puisque un nombre important de bénéficiaires de l'aide sociale ont un emploi, et un emploi trop peu rémunéré. Et donc, à partir de là, on a une espèce de subventionnement indirect par le biais de l'aide sociale. Je pense que ça mérite de le rappeler, parce que à chaque fois, on diminue les montants à disposition des personnes précaires, et on oublie un tout petit peu qu'au final, c'est par ailleurs peut-être qu'on devrait empoigner le problème.
Dernière catégorie, même si on n'a pas été exhaustif, dernière catégorie de population qui souffre, c'est les travailleurs plus âgés, là aussi, là encore, toujours plus nombreux à être dépendants de cette assistance.
Oui, là, on n'est pas tellement au clair pour l'instant. En tout cas, moi, je ne le suis pas encore. Je pense qu'une partie de cette augmentation est liée simplement à l'augmentation en âge de bénéficiaires de l'aide sociale de longue durée qui n'en sont pas sortis. Et qu'effectivement, à un moment donné, ils atteignent cet âge qu'on appelle critique. Je pense cependant qu'effectivement, c'est de plus en plus compliqué sur le marché du travail. Il ne faut pas être trop jeune, il ne faut pas être trop vieux, il ne faut pas être trop femme. Enfin, je veux dire, ça devient effectivement plus compliqué. Donc après, souvent, ce qu'on observe, c'est que les personnes à l'aide sociale qui ont ces âges-là n'ont pas que la problématique de l'âge. Il y a souvent des problématiques de santé ou d'autres qui viennent s'ajouter et qui rendent l'insertion sur le marché du travail plus compliquée.
Merci beaucoup Martine Courte d'être venue nous expliquer les résultats de cette étude lancée par les 14 villes de Suisse.
Place publique.